L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés. Patriarca, patrie, patriarca,
patrie. Et donc, nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de Sortir du patriarcat capitalisme, une critique radiophonique du patriarcat, du sexisme et des oppressions liées au genre et aux sexualités, et ce, dans une perspective intersectionnelle, anticapitaliste et antiraciste. Alors, pour notre première émission, nous aborderons la critique antipatriarcale du contrat social, développée par Carol Peitman dans Le Contrat Sexuel, paru aux éditions La Découverte en 2010 en français, après une première publication en anglais en 1987. Et pour en parler, nous sommes avec Sophia, bonne connaisseuse et critique de cet ouvrage. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Alors, nous avons choisi de faire notre première émission sur cet ouvrage parce qu'il permet d'appréhender le caractère structurel du patriarcat contemporain et ses fondements philosophiques et de saisir sa nature profondément moderne, libérale et capitaliste. Il complète également habilement les critiques anti-étatistes, marxiste et antiraciste du contrat social, compris comme une fiction philosophique des origines de la société et de l'État moderne, qu'on retrouve théoriquement incarnée dans les constitutions des États modernes. Alors l'ensemble de ces critiques du contrat social s'attaque ainsi à la fois aux justifications philosophiques du caractère étatiste autoritaire, bourgeois, raciste et enfin patriarcal de la société moderne, et au rapport de domination contractualisée qui la fonde. Et ça, c'est justement un des intérêts de cet ouvrage « Le contrat sexuel », de s'intéresser précisément à la dimension contractuelle de la domination moderne. Et c'est pas un hasard, en fait, si Carol Peitman est une féministe qui a commencé par une critique du libéralisme dans une perspective plutôt marxiste, on va dire. Donc c'est une philosophe politique, Carol Peitman, et avant d'écrire Le Contrat Sexuel, elle avait déjà élaboré une critique du libéralisme et du contrat, non pas comme une espèce de forme juridique neutre qui serait simplement l'aboutissement de la volonté de deux individus, ou de plusieurs individus, ou carrément à l'échelle d'une société, d'un accord général sur la forme de société qu'on veut donner, mais que c'est une forme qui, en réalité, entérine des rapports de domination qui lui préexistent. Par exemple, le patriarcat, le contrat de mariage, dont elle parle beaucoup dans cet ouvrage, va entériner le rapport de domination des hommes sur les femmes. Et d'autre part, c'est un rapport de domination en lui-même, le contrat.
Et surtout, je dirais que le contrat de mariage masque un autre rapport de domination qui est le contrat sexuel. Parce que la thèse de Carol Peitman, c'est surtout de dire que, à côté du contrat social qui a été décrit par les théoriciens du contrat social de manière abondante, il y a un contrat sexuel qui est masqué, qui a été sciemment masqué par les théoriciens du contrat social. Et ce contrat sexuel, il est aussi masqué par le contrat de mariage, qui apparaît comme un contrat entre guillemets neutre entre deux contractants. Deux co-contractants égaux qui auraient la même légitimité pour déterminer et pour négocier ensemble les termes du contrat de mariage, alors qu'en fait ce contrat de mariage repose pour Carol Peitman sur une inégalité de fait entre l'époux et l'épouse, que clairement l'épouse n'a pas la même force pour négocier ce contrat de mariage que l'époux. Et d'ailleurs, Carol Peitman souligne même que le contrat de mariage est un contrat étatiste, au sens que ses termes sont déterminés et négocié par l'État, puis ensuite appliqué directement aux co-contractants. Et du coup, c'est ça, pour moi, la thèse qui est importante de Carol Peitman, c'est que tous les contrats qu'il s'agisse du contrat de mariage, du contrat de prostitution, du contrat de GPA, pour son versant antipatriarcal, c'est que ces contrats masquent un contrat sexuel additionnel mais invisibilisé.
Oui, et effectivement, l'exemple du contrat de mariage qu'elle prend tout au long de son livre, il est vraiment éclairant sur la critique du contrat, parce que même si on peut voir qu'il y a plein de contrats inégaux dans notre société, on peut se dire que ce n'est pas lié à la nature du contrat, parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut du contrat. Et ce qu'elle montre bien, c'est que pour les principaux contrats qui organisent la société moderne, le contrat salarial et le contrat de mariage notamment, ce n'est pas des contrats dont on peut faire ce qu'on veut, parce que dans le contrat de mariage, il y a un certain nombre de clauses qui sont inégalitaires. Et qui fait par exemple, bon ça on en parlera plus longuement hein, au cours de l'émission, et qui font par exemple les obligations de l'époux sont quand même assez faibles, il doit protection à son épouse, mais enfin on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça fonde une sorte de paternalisme. Et par contre, l'épouse, elle doit faire des enfants, prendre en charge l'éducation et les soins de ses enfants et de son mari. Il y a le devoir conjugal, etc. Quoi.
Et oui, d'ailleurs, il y a surtout ce devoir conjugal. Parce que Carol Pateman souligne bien que l'une des conditions de validité du contrat de mariage est la consommation du mariage. Et elle cite Kant qui souligne que tant que le mari n'a pas exercé son droit conjugal, le contrat de mariage peut être annulé. Et clairement, justement, pour elle, c'est la spécificité du contrat de mariage, c'est ce contrat sexuel, implicite ou explicite selon les époques, qui figure dans le contrat de mariage.
Oui, et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il me semble que dans le droit, on peut faire annuler un mariage pour des raisons, justement, qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle.
Oui, tout à fait. Il y a la possibilité d'abord de l'annulation d'un mariage, donc ça, c'est une annulation rétroactive, c'est pas un divorce, mais c'est bien le mariage qui est réputé ne jamais avoir existé, si l'un des deux époux n'est pas capable de mener à bien ses obligations sexuelles. Et sinon, il y a la possibilité, à la suite d'un mariage consommé, etc., de demander le divorce. Donc là, le mariage est réputé avoir existé, mais simplement est terminé, si l'un des deux co-contractants ne satisfait pas correctement l'autre époux.
Oui, il y a encore aujourd'hui dans la loi une obligation de lit commun, c'est ça ?
De communauté de lit, oui.
Ouais, donc on voit bien en fait à travers l'exemple du contrat de mariage, qui est un contrat pour le coup qui est encore généralisé dans notre société, comment est-ce que le contrat n'est pas une forme juridique neutre, que c'est un contrat de domination. Et ce contrat de domination, là sa spécificité notamment pour le contrat de mariage par rapport au contrat salarié, c'est qu'il a une dimension genrée, c'est-à-dire que alors jusqu'à très récemment, il y avait les deux contractants, il y avait un contractant qui devait être une femme, et l'autre contractant qui était un homme, et l'homme avait un certain nombre d'obligations spécifiques et la femme un certain nombre d'obligations spécifiques, et évidemment les obligations spécifiques pesant sur les femmes étaient plus contraignantes.
Et à mon avis, c'est aussi l'une des forces de Carol Pateman, c'est qu'elle ne fait pas comme une grande majorité des féministes, surtout à son époque, qui était de justement vouloir un contrat de mariage positif, enfin de rêver un contrat de mariage qui permettrait l'égalité entre les co-contractants, etc. Enfin, elle s'attaque aussi aux féministes qui, justement, critiquent seulement l'inégalité que le contrat de mariage créerait entre les deux contractants. Mais elle dit que non, enfin, intrinsèquement, tout contrat de mariage et tout contrat en général, du coup, sa thèse s'applique à tous les contrats. Elle souligne que finalement, un contrat comme un accord librement conclu est impossible. Un contrat de mariage comme un accord librement conclu entre deux époux est impossible aussi.
Oui, et d'ailleurs, c'est là qu'il y a l'analogie qui est vraiment centrale dans son livre, l'analogie avec le contrat salarial. Par analogie, le contrat salarial est aussi un contrat qui est intrinsèquement inégalitaire, dans le sens où le salarié et l'employeur ne sont pas sur un pied d'égalité, puisque l'employeur peut faire, dans une certaine limite, n'importe quoi de son employé, le faire travailler dans des conditions dangereuses, difficiles, même si évidemment le code du travail encadre ce que l'employeur peut faire à son employé, n'empêche que l'employeur a bien un pouvoir que le salarié n'a pas, et le salarié en compensation uniquement un salaire. Et on voit bien là le caractère structurellement inégalitaire, on peut augmenter les salaires, on peut améliorer les conditions de travail, on peut étendre le code du travail, il n'empêche pas que le contrat salarial est structurellement inégalitaire, et c'est structurellement un contrat de domination, même de subordination, comme dit Pateman.
Oui, exactement. Pateman souligne que le contrat de travail, enfin le contrat en général, mais là le contrat de travail, est à la fois un contrat d'exploitation, mais surtout pour elle un contrat de subordination. C'est-à-dire que c'est un contrat qui ne peut jamais être conclu entre personnes qui seraient des statuts enfin, plus ou moins égaux, mais qui nécessite une relation de subordination entre les deux co-contractants. Mais alors, pour elle, ce qui est hyper vicieux avec le contrat, c'est que justement, enfin, en droit, en théorie du droit, le contrat, c'est l'instrument juridique justement qui nécessite une égalité des co-contractants qui seraient dans une position égale pour négocier ces termes. Mais pour Carol Payton, c'est complètement une fiction parce que justement, le contrat de travail nécessite la subordination parce que s'il n'y a pas de subordination, personne de son plein gré, sans aucune pression extérieure, ne souhaiterait se soumettre à un employeur.
Oui, effectivement, c'est là où Payton est une des meilleures critiques, je pense, du libéralisme et notamment du contrat qui est la base hein, de la théorie politique libérale et du libéralisme. C'est-à-dire que finalement, la théorie libérale présente la société comme une immense accumulation de contrats, pour paraphraser Marx. Une immense accumulation de contrats scellés entre des individus qui sont égaux devant la loi. Et ce qu'elle montre, c'est que, en réalité, ces individus, pour qu'il y ait certains individus qui rentrent dans la position subordonnée du contrat de mariage, pour ce qui est du contrat sexuel, ou dans la position de l'employé, du salarié, dans le contrat salarié, voilà, il faut qu'il y ait déjà une société inégalitaire, une société de domination de classe pour ce qui est du contrat salarial, et une société de domination patriarcale pour ce qui est du contrat de mariage. Et finalement, le contrat, sa force idéologique, et c'est pour ça qu'il a tant séduit jusqu'à aujourd'hui, et que la démystification de Carol Payton était vraiment nécessaire, c'est que le contrat, comme il présuppose deux individus qui sont égaux devant la loi, qui l'ont voulu librement, etc., etc., va transformer quelque chose qui en réalité renforce, reconduit une situation de domination préexistante, va la transformer en un accord libre et égal, et qui finalement justifie. En fait, finalement, le contrat social, là, on peut parler aussi d'ailleurs du versant philosophique, c'est-à-dire que le contrat social, c'est d'abord un ensemble de théories qui est développé par Locke, Hobbes, Rousseau, qui sont un peu les fondateurs de la philosophie politique moderne. Et eux vont, avec le contrat social, alors même si chez Rousseau ou chez Hobbes, il y a des aspects qui sont intéressants, on va peut-être y revenir, mais globalement, le contrat social, pour Hobbes comme pour Locke, c'est une fiction philosophique, que soi-disant à un moment, après un état de nature, on va en reparler, les individus auraient accepté d'aliéner leur liberté naturelle au profit d'un ordre social qui leur garantirait la sécurité, globalement. Et évidemment que cette fiction philosophique, c'est ce qui est finalement la justification philosophique suprême d'une société basée sur la domination de l'État sur l'ensemble des individus. Ça, c'est la critique anti-autoritaire anarchiste qu'on peut faire du contrat social. Par contre, ce qui manquait à la critique, par exemple, anarchiste ou à la critique marxiste du contrat social, c'est précisément le fait qu'il y a aussi un versant patriarcal à ces théories du contrat social. Chaque théoricien, que ce soit Rousseau, Locke ou Hobbes, dans leur état de nature, les relations entre les hommes et les femmes sont un peu différentes. C'est d'ailleurs assez intéressant. Mais toujours est-il qu'à la fin, ils vont considérer, sans vraiment en faire le cœur de leur théorie, mais comme si ça allait de soi en fait, la subordination des femmes aux hommes, ils vont en faire finalement une espèce d'à côté du contrat social dans leur fiction, ce qui va par exemple justifier l'exclusion des femmes de l'ordre politique moderne. Parce que ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la théorie philosophique libérale telle qu'on la retrouve jusqu'au 19e et au 20e siècle, et telle dans la société capitaliste, dans la réalité, les femmes sont reléguées à une sphère extra-politique, qui est la sphère domestique, et du coup sont d'une certaine manière exclues de l'ordre politique moderne. Ça, c'est quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le contrat social, il est conclu, pas entre tous les individus, mais il est conclu, là, pour englober toutes les formes de critiques qui ont été faites, par des hommes bourgeois. C'est la critique, par exemple, de Maxine Wood une marxiste, une philosophe marxiste. Il faut bien se souvenir que la révolution anglaise, qui est la première révolution bourgeoise, entre guillemets, ou la première révolution libérale, capitaliste, les gens qui ont des droits politiques, c'est uniquement les bourgeois et les aristocrates. Et aussi, il est conclu qu'entre donc, des hommes bourgeois blancs, c'est-à-dire que jusqu'au 19e et au 20e siècle, les personnes racisées, les personnes non blanches, sont exclues de l'ordre politique, donc exclues du droit de vote, des droits civils. Disons que les théoriciens du contrat social vont justifier un ordre politique qui est évidemment fondé sur la domination de l'État sur l'ensemble des individus, mais qui surtout va avaliser par la nature même de ceux qui contractent le contrat social une société raciste parce que les contractants ne sont que des blancs, patriarcale parce que les contractants ne sont que des hommes, et bourgeoise parce que les contractants ne sont que des bourgeois et des aristocrates.
Mais ce que finalement on va souligner Carol Pateman sur ce point, c'est que pour le versant antipatriarcal de sa critique du contrat social, c'est que la sphère privée que tu as présentée, c'est une condition de la sphère publique, et que le contrat sexuel, c'est une condition de l'existence du contrat social, même si ce contrat sexuel a complètement été caché et ignoré par les théoriciens du contrat social, notamment parce qu'il y a il y aurait eu des incohérences trop fortes entre ce qu'ils défendaient, c'est-à-dire l'idée d'égalité, de fraternité, mais dans le même temps la soumission de la moitié de la population aux hommes blancs, en l'occurrence.
T'as raison de le souligner, c'est que finalement, la société libérale, ce qu'elle a de différent avec la société entre guillemets pré-libérale, la société notamment médiévale ou la société d'Ancien Régime, c'est que la société d'Ancien Régime intègre l'ensemble des individus dans une structure qui est explicitement hiérarchisée. C'est-à-dire que c'est explicitement dit dans les textes médiévaux ou d'Ancien Régime que les hommes sont au-dessus des femmes, que le seigneur est au-dessus des vilains, des manants, des paysans. Voilà, il y a une structure hiérarchisée. Alors que la société libérale, d'une certaine manière, elle est plus insidieuse, elle crée de la domination par l'exclusion de la société civile bourgeoise, en fait.
Mais après, elle justifie cette exclusion par le contrat, justement, qui est un instrument juridiquement neutre, entre guillemets, conclu entre des co-contractants, entre guillemets, toujours égaux. Et justement, cette fiction juridique, pour Carol Pateman, elle parvient à justifier l'ensemble des comportements de domination dans la société actuelle, qu'ils soient dans le cadre du travail salarié ou dans le cadre de la relation de mariage.
Oui, et d'ailleurs, ça, c'est un paradoxe. C'est que, finalement, les femmes sont exclues de la société libérale, de l'ordre politique moderne, et en même temps, elles sont quand même censées y contracter. Il y a une espèce de paradoxe, non ?
Oui, tout à fait. Il y a le paradoxe que souligne Carol Pateman, c'est que les femmes sont privées de toute existence juridique, notamment pendant l'ère victorienne et puis à la suite de l'ère victorienne par la doctrine de la couverture, c'est-à-dire qu'elles elles sont couvertes juridiquement par le droit de leur époux ou de leur père, mais qu'en tant qu'individus libres, elles n'ont pas de droit, mais qu'elles doivent tirer leur statut juridique de quelqu'un d'autre. Et donc elles sont privées d'existence juridique, donc elles n'ont pas le droit de contracter, sauf dans le cadre de deux exceptions, le contrat de travail et le contrat de mariage. Et Carol Pateman, elle résout ce paradoxe en soulignant que finalement, c'est même pas le patriarcat capitaliste qui doit forcer légalement les femmes à se marier, c'est qu'en mettant en œuvre à la fois des contraintes économiques, parce que les contrats de travail typiquement féminins offrent des conditions bien moins rémunératrices, moins favorables que les contrats masculins, et une idéologie du mariage très forte, finalement les femmes sont dans l'obligation, non pas légale mais sociale, de se marier, quoi.
Oui, c'est quelque chose d'ailleurs que une théoricienne féministe, qui est d'ailleurs abondamment citée par Pateman dans son livre, Christine Delphi, avait aussi souligné le fait que le capitalisme, au moins jusqu'à une époque relativement avancée, poussait les femmes au mariage en les privant de moyens économiques, de subsistance indépendante.
Mais ça parce que, justement, le contrat de travail nécessite ou présuppose un contrat de mariage dans le cadre de laquelle il y a une reproduction de la force de travail, etc. Donc finalement, c'est ce que d'ailleurs souligne Carol Pateman, l'interdépendance entre le contrat sexuel et le contrat social, qu'il s'agisse du contrat philosophique ou du contrat réel, c'est-à-dire contrat interindividuel de mariage, de travail, etc., finalement, l'interdépendance entre les deux se situe à la fois d'un point de vue philosophique et d'un point de vue pratique, quoi.
Oui, et c'est-à-dire qu'à un niveau, plus général, et c'est ce que défend Peitman, finalement, elle montre bien comment est-ce que le capitalisme est indispensable au patriarcat moderne et réciproquement. C'est-à-dire que le capitalisme a besoin du patriarcat moderne parce que ça permet de déléguer aux femmes l'ensemble de la prise en charge de la reproduction matérielle, le soin aux enfants, même la production d'enfants qui vont être des futurs prolétaires, des futures personnes qui vont vendre leur force de travail pour produire des marchandises. Voilà, et finalement, le fait de les déléguer aux femmes, ça permet en fait au capitalisme de se décharger d'un coût qui est gigantesque. Parce que le coût de l'éducation des enfants, du soin aux enfants, du soin au mari, des relations sexuelles, si les capitalistes devaient prendre en charge l'ensemble de ces coûts et l'inclure dans le salaire, ça serait gigantesque. Bon, ça, globalement, c'est un peu l'argument des féministes marxistes, même si je pense qu'il faut bien souligner que Peitman va au-delà de ça.
Oui, exactement. Carol Peitman critique parfois assez vertement les féministes marxistes en critiquant le fait qu'elles réduiraient le contrat de mariage à un autre contrat de travail, mais cette fois non rémunéré. Et justement, Carol Peitman dit que non, ce n'est pas la même chose, dans le sens où, d'une part, le contrat de travail est un contrat masculin pour elle, c'est-à-dire que c'est un contrat qui présuppose un contrat sexuel, un contrat de mariage dans le cadre duquel le travailleur homme pourrait justement avoir accès à sa condition de travailleur parce que derrière, il y a son épouse qui se chargerait du care, enfin de tout ce que tu viens de décrire. Mais aussi parce que la ménagère ne peut pas être une travailleuse dans le sens où elle est déjà asservie de par son sexe, pas son genre, parce que Peitman est une féministe radicale qui ne parle pas de genre, mais du fait de son sexe, elle est asservie et du coup, elle ne dispose pas d'autorité sur son propre corps et du coup, ne peut pas vendre sa force de travail parce qu'elle n'est déjà pas propriétaire de son corps qui a déjà été finalement pour elle vendu presque à son mari.
Oui, et c'est là, je pense, l'intérêt du féminisme matérialiste et puis aussi du féminisme radical par rapport à cette question. Tu évoquais tout à l'heure le fait que c'était pas simplement un contrat d'exploitation, mais aussi un contrat de subordination. Et effectivement, on peut pas dire que tout dans le contrat de mariage est simplement quelque chose qui est fonctionnel par rapport au capitalisme. En réalité, et ça, je pense que c'est quelque chose d'important à dire, et c'est ce que Peitman souligne, les principaux bénéficiaires du contrat de mariage, du contrat de subordination des femmes aux hommes, c'est les hommes. C'est pas le capitalisme d'abord. Après, évidemment, le capitalisme a aussi intérêt au patriarcat moderne dans une certaine mesure, parce que, comme on l'a dit, et comme tu l'as très bien dit, finalement, ça permet aux travailleurs masculins d'être exclusivement tourné vers la production de marchandises, si tout ce dont il a besoin en termes de soins, de s'occuper des enfants, de faire à manger, laver son linge, etc. Et il y a une autre personne qui s'en occupe. Et ça, je pense que c'est un thème qu'on redéveloppera dans d'autres émissions. Il y a des affinités très fortes entre le patriarcat et le capitalisme, qui sont des affinités structurelles, mais on ne peut pas, comme les féministes marxistes le font, dire que finalement le patriarcat c'est simplement un instrument au service du capitalisme. Le patriarcat a son, entre guillemets, son utilité propre, c'est malheureux à dire, mais c'est une structure de domination à qui avant tout bénéficie aux hommes. Et d'ailleurs, ça permet de revenir sur le deuxième chapitre de Peitman qui s'appelle Confusion patriarcale, où elle essaye un petit peu de définir un petit peu ce que c'est que le patriarcat. Alors elle, ce qui est justement, je pense, quelque chose de fondamental dans le travail de Carol Peitman, et qui la distingue, je pense, de beaucoup de féministes, c'est qu'elle s'intéresse vraiment au patriarcat moderne, et qu'elle critique une conception du patriarcat qui serait uniquement quelque chose de transhistorique, et simplement une forme de paternalisme, c'est-à-dire de domination du père. Et justement, ça, je pense, c'est vraiment un truc qui est vraiment au cœur de son ouvrage, c'est de distinguer que finalement il y a deux patriarcats. Il y a le patriarcat paternel, qui est le patriarcat qui a dominé à peu près jusqu'à la naissance du capitalisme au XVIIe siècle en Angleterre, c'est-à-dire qui donne tous les pouvoirs globalement à la figure du pater familias, la figure du père. Alors en fonction des sociétés, ça va être souvent l'aîné, le parent masculin le plus âgé. Dans la société romaine, voilà, c'est des vieillards qui dominent, quasiment des formes de gérontocratie masculine. Et elle, elle va montrer que, et alors ça on le voit à la fois dans la théorie du contrat social avec Locke, Hobbes, alors là qui pour le coup s'opposent sur cette question, et puis aussi dans la réalité, c'est que avec la naissance de la société moderne et du capitalisme et du patriarcat moderne, ça, on va passer à un patriarcat fraternel, c'est-à-dire où ceux qui dominent, ce sont globalement plutôt les maris que les pères. Hein, parce que par exemple dans la société romaine, pour bien comprendre le contraste, dans la société romaine, même la femme mariée, la personne qui restait malgré tout son tuteur légal, la personne qui avait tous les pouvoirs légaux sur elle, c'était plus le père que le mari. Alors qu'évidemment, dans la société moderne, ça change radicalement. C'est avant tout le mari qui a tous les pouvoirs sur sa femme.
Et d'ailleurs, c'est pour ça que les théoriciens du contrat social se revendiquaient antipatriarcaux. Parce que justement, ils se positionnaient contre le patriarcat paternel traditionnel dans une position presque émancipatrice, alors que pour Carol Payman, en fait, c'est des patriarches antipatriarcats, dans le sens où eux-mêmes revendiquent, exigent un patriarcat fraternel qui remplacerait un patriarcat paternel.
Oui, c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté qu'elle essaye de démêler dans le deuxième chapitre, Confusion patriarcale. C'est que, par exemple, une anthropologue féministe comme Gail Robin disait « On peut parler de patriarcat que dans les sociétés où c'est vraiment le père qui domine. Et sinon, il faut parler de domination masculine. » Et Payman s'oppose à cette interprétation en disant « Non, il y a patriarcat dès que c'est une société où ce sont les patriarches. » qui domine. Et en fait, elle s'appuie, et ça c'est, je trouve, quelque chose de très intéressant chez Payman, c'est qu'elle va parfois s'appuyer sur la théorie politique de Locke, de Hobbes et de Rousseau pour expliquer des traits fondamentaux de notre société moderne, patriarcale. Donc, par exemple, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on devrait toujours parler de patriarcat aujourd'hui, elle se réfère en fait aux fictions philosophiques qui ont été produites par les auteurs que je viens de citer, et qui disent bien que, alors que ce soit pour le déplorer pour Hobbes, ou que ce soit pour dire « c'est super » chez Locke, les fils n'ont pas aboli, enfin, dans la théorie un peu fictionnelle, où globalement, le premier père, c'est Adam, et puis il aurait tous les pouvoirs, et puis ses fils, à un moment, se seraient révoltés contre lui, c'est par exemple quelque chose qu'on retrouve aussi chez Freud, aurait commis un parricide, pour mettre fin à sa domination absolue. Chez Hobbes, la figure du père, c'est le roi, et les fils, c'est un peu les bourgeois et les aristocrates qui en ont marre du pouvoir absolutiste du roi. C'est un peu des métaphores philosophiques pour parler de choses qui ont vraiment existé, par exemple la Révolution anglaise, c'est effectivement les fils, entre guillemets, c'est-à-dire les bourgeois et les aristocrates qui veulent mettre fin au règne absolutiste du roi anglais. Voilà, il l'assassine en l'occurrence. En 1649, le roi anglais est liquidé. Eh bien, d'une certaine manière, ses fils, ils ne vont pas abolir le pouvoir politique du père. Ils vont simplement le reprendre à leur compte. Et de même, dans la réalité de la société anglaise du XVIIe siècle, les bourgeois et les aristocrates vont s'approprier le pouvoir politique qui était celui du roi, notamment à travers le pouvoir du Parlement, qui à un moment va être exclusif, puis après la monarchie va revenir, mais peu importe. Et là, Payman est très, très intéressante, c'est qu'elle dit « Mais les fils ne récupèrent pas que le pouvoir politique du père, ils récupèrent aussi son pouvoir sexuel. Et ils récupèrent donc le pouvoir, finalement, de domination sur les femmes. » C'est-à-dire que dans cette fiction, hein, bon, évidemment qu'il n'y a pas de réalité là pour le coup, le père avait tous les droits sexuels sur les femmes, et les fils n'en avait pas, donc les fils, en gros, assassinent le père pour récupérer les droits sexuels sur les femmes. Et donc, au lieu que ce soit une personne qui domine toutes les femmes, eh bien, ce sont tous les hommes qui dominent toutes les femmes. D'où le fait que, finalement, Payman justifie là pourquoi est-ce qu'elle continue de parler de patriarcat, puisque finalement, les hommes n'ont fait que récupérer collectivement les pouvoirs qui, au début, étaient les pouvoirs sexuels, les pouvoirs de domination masculine, qui était dévolu uniquement à un certain nombre d'hommes, les pères. Donc ça justifie l'utilisation du concept de patriarcat. Et puis, d'autre part, ça permet, disons, de, d'expliquer la question voilà, du contrat sexuel. C'est-à-dire que dans cette fiction, les fils ont récupéré les pouvoirs de domination sexuelle, les pouvoirs de domination masculine sur les femmes du père, et par un contrat, un second contrat, le contrat sexuel, entre guillemets, ils s'accordent sur le fait qu'ils vont partager entre eux toutes les femmes, et la manière dont ils le font, alors là, évidemment, on nage en pleine fiction hein, philosophique, mais la manière dont ils vont le faire, c'est notamment le contrat de mariage. C'est-à-dire que chaque homme aura sa femme qui sera bonne à tout, poule pondeuse, mère au foyer, ménagère, qui devra assurer le devoir conjugal des relations sexuelles, etc.
Et en plus du contrat de mariage, il y a aussi, pour Carol Bateman, le contrat de travail entre le maître et les servantes, qui sont les domestiques qui sont majoritairement des femmes. Et pour Carol Bateman, finalement, plus on avance dans le temps, plus l'épouse devient multitâche, dans le sens où elle assure à la fois le devoir, l'obligation sexuelle, l'obligation de reproduction de la force de travail et les obligations domestiques de laver la maison, faire à manger, etc. Et finalement, la famille se réduit, mais au début, finalement, de l'état moderne, la famille est relativement large, est composée de la femme, des enfants et de plusieurs servantes de domestiques femmes qui sont aussi sous l'égide du mari patriarche. Et donc finalement, à la fois le contrat de mariage, mais le contrat de travail aussi, servent tout ça.
Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça permet de faire un point sur un concept qui est le concept de famille, qui est un concept qui a été critiqué hein, à partir du 19e siècle par les marxistes et par les féministes, mais qui, souvent, on n'a pas vraiment de définition très claire. En réalité, la familia dans la société patriarcale romaine, c'est l'ensemble des personnes qui se trouvent sous le pouvoir du pater familias. Et donc, la familia, c'est les personnes donc, qui sont soumises au pater familias, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, ses esclaves, ses domestiques, etc. Donc, c'est pour ça notamment que les féministes ont beaucoup critiqué la famille, qui est loin d'un ordre naturel, mais qui est en réalité un ordre social fondé sur la soumission au père, d'abord, puis au mari, à partir du XVIIe siècle. Et justement, je pense que là, ça vaudrait le coup, puisqu'on est déjà un peu rentré dans toutes ces fictions philosophiques, on voit déjà un petit peu leur intérêt, là, à travers ce récit du passage du pouvoir du père au fils. Et on pourrait peut-être, aborder quelque chose qui est central aussi chez Bateman, c'est la théorie du contrat social et de l'état de nature de Hobbes. Parce que finalement, Hobbes, pour des raisons qui ne sont pas du tout féministes, hein, il faut bien le dire, Hobbes n'est pas quelqu'un de féministe ou de pro-féministe, il n'est pas contre le patriarcat. Au contraire, lui, il défend un patriarcat absolutiste, c'est-à-dire le pouvoir absolu du père. Lui, il défend, entre guillemets, le père contre les fils. Il défend le roi d'Angleterre contre les bourgeois et les aristocrates qui veulent son pouvoir. Hobbes, finalement, pour des raisons qui sont essentiellement rhétoriques, dit des choses quand même relativement intéressantes, notamment par exemple dans le deuxième chapitre « Confusion patriarcale », il définit la famille comme une institution artificielle, alors que Locke, par exemple, disait que la famille, c'est une institution naturelle qu'on retrouve déjà dans l'état de nature. Donc l'état de nature, hein, simplement pour faire un point, c'est un état, entre guillemets, pré-politique, c'est-à-dire où tous les individus sont... Alors c'est une fiction complète, hein, je veux dire, ça n'a jamais existé, c'est pas une description des chasseurs-cueilleurs. C'est une fiction qui présuppose que les individus sont dispersés à travers le monde, ce sont des individualistes qui cherchent à survivre, voilà, et qui éventuellement coopèrent entre eux. Alors, pour Locke, le mariage et la famille existent déjà dans cet état de nature, c'est-à-dire qu'il y a déjà des familles, il n'y a pas d'ordre politique, mais il y a déjà des familles. Donc, lui, il naturalise ça. Et ce qui est intéressant avec Hobbes, c'est que lui, il dit, ben non, en fait, la famille... elle est constituée par droit de conquête. C'est-à-dire que lui, il imagine qu'avant la fondation de l'ordre politique, il y a des hommes qui ont réussi, par la ruse, la force, la tromperie, etc., à conquérir des femmes et des hommes, et que ces femmes et ces hommes qui ont été conquis, eh bien, sont devenus sa famille.
Mais ce qui est intéressant chez Hobbes, c'est que justement, plutôt que de dire que les hommes... Parce que finalement, à la fin, chez Hobbes, tous les hommes sont parvenus à conquérir toutes les femmes. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est pas parce que, justement, les femmes seraient naturellement faibles, ou naturellement inférieure à l'homme, mais justement, ce que Hobbes souligne, c'est que les femmes seraient ralenties par les enfants qu'elles porteraient, qu'elles auraient eu précédemment par différents moyens, à cause de viol ou je ne sais quoi, mais que finalement, c'est parce qu'elles sont ralenties par le fait qu'elles doivent prendre soin de deux individus, d'elles-mêmes et de leurs enfants, que les hommes parviennent à les conquérir. Et c'est assez intéressant parce que du coup, pour moi, Hobbes dénaturalise presque l'infériorité féminine que justement Locke et Rousseau naturalisent à fond, quoi.
Oui, ça c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, on a un récit de la constitution... Alors évidemment, tout ça, c'est des fictions philosophiques, mais on a un récit philosophique de la constitution du patriarcat moderne chez Hobbes, qui est radicalement différent de chez Rousseau et Locke. Chez Rousseau et Locke, finalement, le patriarcat a toujours existé, alors que chez Hobbes, il s'est constitué par conquête, et pas du tout par quelque chose de l'ordre de la nature, ou alors à la limite d'un contrat, mais en fait, c'est simplement de la pure conquête, de la pure domination, et même si, pour Hobbes, il s'agit de justifier le patriarcat paternel, et la domination du roi sur tout le monde, malgré tout, ça offre quand même quelque chose de relativement intéressant. Et même, on peut aller encore plus loin, c'est que pour Hobbes, le contrat lui-même est le résultat d'une conquête. C'est-à-dire que le contrat pour Hobbes, il est fondamentalement inégalitaire, et c'est un peu, c'est un peu comme le contrat entre le maître et l'esclave chez Hegel, c'est-à-dire... c'est le droit de conquête, c'est-à-dire que l'individu qui est battu et qui a l'épée sur sa gorge accepte, sous la forme d'un contrat, de devenir le subordonné de la personne qui tient l'épée et qui ça menace de la tuer.
Mais paradoxalement, chez Hobbes, il y a autant presque de pression quand tu signes un contrat à ton bureau que quand tu le fais sous la pression d'une épée sur ta gorge. Donc il reconnaît bien l'existence de contraintes extérieures qui te forceraient à conclure un contrat, mais finalement pour lui il n'y a pas de différence que ces contraintes externes te soient infligées de manière informelle lorsque tu signes ton contrat sur ton bureau que lorsque tu as une force matérielle le long de ton cou qui menace de te tuer.
Oui, effectivement, c'est là où Hobbes il est intéressant, mais il est limité, parce que par exemple, du coup chez Hobbes, il n'y a pas de différence entre le consentement et le non-consentement. C'est-à-dire que, comme tout contrat a une forme de conquête, du coup, ça introduit pas la gradation. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de montrer que, par exemple, avec la théorie de Hobbes, on peut dire que le contrat de mariage, il est contraint parce qu'il y a des contraintes économiques, matérielles, etc. Par contre, le problème, c'est que chez Hobbes, en fait, c'est pas une critique, évidemment, de la société moderne qui fait, c'est une apologie, en fait, d'une société qui est fondée sur l'inégalité brute. Là où les philosophes libéraux comme Locke sont beaucoup plus hypocrites et vont dire que mais non, à part le grand méchant roi absolutiste, finalement tout le reste de société n'est que contrat entre individus libres et égaux et reproduction de structures naturelles comme la famille, quoi. Disons qu'au moins, même si je pense qu'au final Hobbes, sa théorie politique est aussi détestable que celle des autres, au moins, c'est moins hypocrite, et ça permet peut-être plus de réfléchir sur notre société que les fariboles de Locke, quoi. Et d'ailleurs, pour finir un petit peu avec ce deuxième chapitre, voilà, qui s'appelle « Confusion patriarcale » de Bateman, elle dit « Le discours de Hobbes et de Locke ménageait nécessairement une place à la fois au patriarcat et au capitalisme. Les individus qui s'engagent dans l'économie capitaliste sont des chefs de foyer. » Et ça, c'est quelque chose, c'est cette notion voilà, de chef de foyer, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que, notamment, ça va permettre à Bateman de critiquer le grand philosophe contemporain de la justice, qui est Rawls. Alors lui aussi, il a toute une espèce de fiction philosophique sur laquelle on ne va pas revenir. Mais globalement, les personnes qui vont contracter, qui vont faire le contrat social dans cette fiction philosophique, chez Rawls, ce sont les chefs de famille. Et ces chefs de famille sont, on ne le dit pas, mais historiquement et structurellement des hommes. Finalement, la théorie libérale, même celle de Rawls, avalise le fait que déjà il y a des familles. Donc déjà, ça ne fait pas partie du contrat originel. C'est-à-dire que la famille est naturalisée, en fait, alors que c'était bien un ordre politique de domination du père sur les autres, et plus précisément après du mari sur sa femme et sur ses enfants. Voilà, donc ça, il le naturalise, et pour lui, ça fait pas partie de quelque chose, parce que bon, sa fiction à Rawls, c'est en gros, c'est la théorie du voile originel, c'est-à-dire que les individus ne savent pas dans quelle position ils vont se retrouver dans l'ordre politique qu'ils vont fonder. Donc, il y a chez Rawls une discussion qui est très réformiste, hein, mais de dans quelle mesure est-ce qu'on met des inégalités économiques, sachant qu'on peut se retrouver tout en bas. On ne sait pas la position qu'on va occuper dans cette société. Alors donc ça peut être intéressant, effectivement. Et le fait est que, bizarrement, on ne discute pas de qui va se retrouver à la place de la femme, qui va se retrouver à la place de l'homme. Est-ce que même, on pourrait très bien imaginer une de ces fictions philosophiques où les individus décideraient en fait de ne pas créer de genre, de ne pas créer des individus qui ont des fonctions, des tâches, des aptitudes typiques, etc., stéréotypées, parce que, je sais pas, il y aurait une partie des individus qui auraient peur de se retrouver dans la case femme, parce que c'est pas cool, quoi, dans notre société. Donc, ça c'est quelque chose d'intéressant chez Pateman, c'est qu'elle critique vraiment... voilà, tous les philosophes libéraux, et là on renvoie à son ouvrage pour des critiques un peu précises, parce que c'est quand même un ouvrage assez dense, il faut le dire, hein, théoriquement, et elle revient de manière très profonde sur Freud, sur Hobbes, sur Locke. Là, on y va un petit peu à la hache, parce que c'est évidemment assez long. Peut-être pour continuer sur cette notion justement de l'individu, on arrive là un peu au troisième chapitre de l'ouvrage de Pateman, qui s'appelle « Le contrat, l'individu et l'esclavage ». Elle s'intéresse un petit peu, du coup, aux divergences entre les différents théoriciens du contrat social. D'abord, elle s'attaque à quelque chose dont on a déjà parlé, c'est que le contrat justifie l'assujettissement en le faisant passer pour la liberté. C'est-à-dire que ça justifie finalement la subordination des femmes en faisant passer leur subordination dans le mariage pour un acte de volonté. D'ailleurs, même dans la société la plus patriarcale au monde, la femme est quand même censée dire oui. Oui, je le veux. Oui, je veux devenir... Donc finalement, le contrat permet de faire passer ce qui est de la domination pour de la servitude volontaire. Et ça, je pense que c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé, mais je pense qu'une des choses que permet Pateman et d'autres féministes, c'est de s'attaquer à cette notion de servitude volontaire qu'on retrouve partout, qu'on retrouve par exemple chez Bourdieu, et qui est une théorie qui est dangereuse. Parce que elle justifie la domination en disant « Non mais finalement, c'est la faute des dominés parce qu'ils ont consenti à leur domination. » Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est que, en réalité, pour reprendre un terme de Nicole Claude Mathieu, qu'elle développe dans un ouvrage qui s'appelle « L'anatomie politique », céder n'est pas consentir. Les femmes, dans une société patriarcale capitaliste au XIXe siècle, n'ont pas d'autre choix, quasiment pas d'autre choix que de dire oui au mariage. Et c'est pas pour autant qu'elles y consentent de plein gré. C'est des contraintes économiques et politiques qui les forcent au mariage.
Mais du coup, ce qui est intéressant chez Pateman, c'est qu'elle crée une continuité entre l'esclave, le domestique et la ménagère ou l'épouse, en montrant que finalement, ces trois situations sont situées sur le même continuum et que finalement, aucune d'entre elles ne consent réellement à sa position. Après, justement, c'est intéressant, mais c'est aussi l'une des limites de Pateman, à mon sens, qu'elle ne dresse pas suffisamment clairement notre différence entre l'esclavage et la condition de ménagère, en les plaçant sur le même plan presque, alors que, bon, à mon sens, il apparaît quand même assez nécessaire de montrer la spécificité tant de l'un que de l'autre, pour ne pas aboutir à une espèce de « tout est pareil », quoi.
Oui, enfin, c'est un petit peu les forces et les limites des analogies, en fait. C'est-à-dire que la force de l'analogie, c'est de dire, mais finalement, on considère que la subordination des femmes est naturelle, alors qu'aujourd'hui, plus personne ne considère, à part quelques suprémacistes blancs aux États-Unis, que l'esclavage est naturel. Et pourtant, la condition des femmes et des esclaves sur certains plans se ressemble.
Mais d'ailleurs, dans le contrat sexuel, Pateman s'attache à montrer... En tout cas, en 87, les ressemblances entre la situation de la femme mariée et de l'esclave, et c'est très intéressant, elle montre que, d'une part, il y a la minorité perpétuelle, tant des esclaves que des femmes mariées, que les deux prennent le nom de leur mari ou de leur maître, le choix de la résidence leur est imposé, la propriété des enfants leur est retirée. Elle cite même le cas de vente aux enchères d'épouses, entre qui s'installent du 16e jusqu'au 20e siècle. Et c'est des situations dans lesquelles les époux sont mis en vente sur la place publique, attachés par des cordes et vendus aux premiers intéressés. Et même aussi, surtout, le droit de viol, le droit sexuel qui s'opère sur les épouses et sur les esclaves. Et pour Carol Pateman, suffisamment similaire pour mettre ces deux statuts sur un même continuum. Et d'ailleurs, dans cette même partie, Pateman s'attache à s'intéresser sur le statut d'épouse, ce qui le distingue du statut d'esclave, ce qui le distingue du statut d'esclave civil et de travailleur domestique. Et c'est assez intéressant parce qu'elle montre que finalement le travailleur domestique ne pourra jamais, enfin, qu'une femme mariée ne pourra jamais avoir le même statut qu'un travailleur domestique masculin parce qu'il est masculin et que du coup, de facto, le contrat sexuel ne s'opère pas à son encontre, mais plutôt il utilise le contrat sexuel vis-à-vis de sa propre épouse, quoi. Et finalement, Carol Pateman aboutit à la conclusion que la femme est la seule servante permanente dans tout ce continuum d'esclaves, servants, domestiques, civil servants, etc.
Oui, et c'est intéressant justement de revenir sur la condition des servantes, parce que ça, c'est peut-être une des limites de Pateman, c'est de ne pas avoir vu que, historiquement, dans la réalité, les servantes, au moins à partir de la deuxième moitié du 19e siècle aux États-Unis, sont principalement des servantes racisées, noires, mexicaines, etc. Bon, ça, on l'abordera un petit peu plus longuement dans la deuxième partie de l'émission, qui est consacrée aux limites et aux critiques de Pateman, et puis comment est-ce qu'on peut éventuellement les dépasser. Mais je pense que c'est important de déjà le dire que... Après, ceci dit, ça, c'est les servantes, disons comme au sens de domestique ou de travailleuses salariées dans le secteur du care, du service à la personne. Après, là où la critique de Pateman est assez juste, c'est que dans un certain nombre de cas, les femmes, même blanches, sont servantes domestiques de leur mari dans tous les domaines. Et après, ce qu'oublie Pateman, c'est que parfois, les femmes, notamment blanches et de classe moyenne, délèguent une partie de cette servitude domestique à d'autres personnes qui sont fréquemment des femmes prolétaires racisées.
Mais d'ailleurs, on voit bien que Carol Pateman s'attache à parler surtout des femmes des catégories sociales moyennes, si je puis dire, parce qu'elle parle de la situation de nombreuses femmes qui seraient d'abord servantes et pour développer leur capacité et leur connaissance des tâches domestiques et qui ensuite acquériraient une plus forte valeur qui se trouverait dans le cadre de leur mariage parce que justement elles feraient un meilleur mariage qui aurait des avantages économiques plus importants pour elles, mais qui ensuite elles-mêmes, comme elles seraient dans une position économique plus avantageuse, exploiteraient d'autres servantes et qui sont très souvent racisées, comme tu l'as souligné.
Oui, et ça c'est un problème de Pateman. Il y a un problème de l'analogie, c'est-à-dire que fondamentalement, non, la situation des femmes mariées, même au pire moment de l'époque victorienne, n'est pas celui des femmes, notamment des femmes esclaves. Alors c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas rompre à l'époque le contrat de mariage, comme on ne peut pas rompre l'esclavage, etc. Mais malgré tout, c'est pas la même concrètement, c'est pas du tout la même situation, même si effectivement il y a un certain nombre d'analogies. Et je pense qu'on peut critiquer les usages historiques de l'analogie. Par exemple, les féministes blanches bourgeoises aux États-Unis au 19e siècle qui disaient qu'elles étaient des esclaves. Ben non, elles n'avaient pas la même situation que les femmes esclaves, ça c'est clair. Et aussi, on peut aussi critiquer par extension les Québécois des années 70 qui disaient que c'était des nègres blancs, alors que bon, il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Les Québécois n'avaient pas la situation des nègres. Et pareil pour les salariés qui disaient au milieu du 19e siècle aux États-Unis que c'était des esclaves blancs, alors qu'évidemment leurs conditions n'étaient pas celles d'esclaves.
Je pense que c'est important de souligner que la raison pour laquelle c'est ce genre de comparaison peut être un peu délétère, c'est parce que ça participe de l'invisibilisation des populations qui sont effectivement des esclaves, parce que justement, à force de comparaisons trop extensives, si je puis dire, on a l'impression finalement que la catégorie d'esclave, le statut d'esclave n'est plus si particulier, alors que je pense qu'il est important de souligner que si, c'est quand même sacrément particulier, quoi.
Oui, en fait, ça gomme des spécificités. Ce qu'on peut dire après avoir lu Pateman, c'est que la distinction classique de d'un côté, il y aurait le travail libre et de notre côté, le travail non libre, d'un côté, les personnes libres et les personnes non libres, cette distinction radicale, elle n'existe pas. Et qu'en fait, il y a un continuum entre des formes de travail ou des personnes qui sont non libres, mais seulement une partie du temps, seulement dans une certaine limite, etc. Donc les travailleurs salariés, par exemple, jusqu'à une forme de travail non libre et de personnes non libres de manière absolue, qui est l'esclavage. Et au milieu, il y a un certain nombre de strates intermédiaires dont d'ailleurs elle parle. Tu as le péonnage, donc une espèce de, voilà, de travail salarié forcé pour dette. Il y a aussi le contrat d'esclavage, donc une fiction qui n'a jamais existé, mais en gros... Et ça, c'est intéressant, cette fiction du contrat d'esclavage, c'est-à-dire que il y a des libertariens, des philosophes libertariens, donc le libertarianisme, c'est une forme de libéralisme contemporain, poussé un peu jusqu'au bout, quoi, un peu où il n'y a pas vraiment de limite morale dans la possibilité de ce qu'on met dans le contrat. Par exemple, les libertariens défendent le fait qu'on peut signer un contrat où on accepte de se faire manger par quelqu'un d'autre. Et notamment, il y a des philosophes libertariens qui défendent l'idée que si quelqu'un pourrait rentrer en perpétuelle servitude au profit d'un autre contre un certain nombre de choses, les libertins défendent l'idée que ce contrat pourrait exister. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de montrer qu'il y a certaines, effectivement, il y a un continuum et que, effectivement, le travail salarié et l'esclavage ne s'opposent pas radicalement, puisqu'il y a bien, effectivement, il y a le contrat d'esclavage au milieu qui est à la fois contractuel comme le contrat de travail et qui prévoit une rémunération négociée comme dans le contrat de travail, mais en même temps qui s'approche de l'esclavage parce que c'est une servitude intemporelle et quasiment absolue. Mais après, il faut bien dire que s'il y a un continuum, et s'il y a bien des situations qui sont intermédiaires, par exemple, elle donne un exemple très intéressant dans son livre de mineurs écossais qui étaient d'une certaine manière des esclaves parce qu'ils étaient attachés à des mines de salines ou des mines de sel de manière perpétuelle et qui pouvaient être revendus par le propriétaire à un acquéreur des mines. Donc là, il y a effectivement, et c'était un travail à vie dont ils ne pouvaient pas sortir. Donc, d'une certaine manière, ça se rapproche de l'esclavage. Et en même temps, ils avaient un salaire qui était relativement élevé. Donc on voit bien, effectivement, et ça je pense que c'est intéressant chez Pateman, que en fait, finalement, Pateman, là où elle est très intéressante, c'est qu'elle permet de critiquer les théories libérales du travail libre, du mariage libre, etc. Par contre, son gros problème, c'est que, d'une certaine manière, en dressant ce continuum, elle aplanit des situations qui sont quand même très très différentes, notamment entre l'esclavage et le travail libre, entre l'esclavage et le mariage. Et ça, c'est peut-être une critique qu'on peut faire dans le livre de Pateman de manière générale, et puis il y a beaucoup de féministes aussi, c'est une espèce de faux universalisme. C'est-à-dire de prendre un peu des exemples par-ci par-là qui ne sont pas d'ailleurs que des exemples de femmes blanches bourgeoises. Pour le coup, Pateman, elle prend des exemples aussi de femmes prolétaires. Mais le problème, c'est que en cherchant finalement à unifier la condition des femmes, et donc en cherchant à créer une théorie du contrat sexuel, de un contrat sexuel, finalement elle gomme le fait que, et ça c'est quelque chose dont on parlera plus longuement dans la deuxième partie de l'émission, c'est qu'en réalité ce contrat sexuel, on pourrait dire qu'il y a presque plusieurs contrats sexuels. Et le contrat sexuel ne se matérialise pas de la même manière pour une femme blanche bourgeoise, qui aura effectivement une position inférieure et qui devra faire de la représentation sociale, gérer le foyer, etc. Et c'est pas la même chose que le contrat sexuel d'une femme prolétaire racisée aux États-Unis au XIXe siècle, qui aura en plus des viols de la part de son patron blanc, ou des viols dans la rue, qui aura beaucoup plus de travail domestique, celui dans sa famille noire et celui dans la famille blanche où elle est employée, etc.
Mais finalement, ce qui est très intéressant chez Bateman, c'est surtout de montrer que, malgré le fait que le contrat soit là pour masquer les inégalités, ces inégalités subsistent et nécessitent, et sont finalement nécessaires à la conclusion du dit contrat, enfin, finalement, elle retire le contrat pour voir ce qu'il y a en dessous et pour montrer que finalement, les réalités ne sont pas si différentes. Mais nous, il apparaît nécessaire qu'on souligne que si ce travail de retirer le contrat pour voir ce qu'il y a en dessous était nécessaire, quand même, il y a des réalités qui sont bien différentes. Quoi.
Oui, oui, bien sûr. Et puis, les modalités même du contrat sont différentes. Par exemple, une critique qu'elle fait, je pense, de manière assez juste, la comparaison entre le contrat de mariage et le contrat de travail salarié, et ça, c'est une critique qu'on retrouve aussi chez Christine Delphi, on ne peut pas dire que c'est les mêmes modalités. Le contrat de mariage est plus asservissant que le contrat de travail salarié, notamment parce que le contrat de mariage, il n'y a pas de limite. À une certaine époque, on ne pouvait pas le rompre.
Et aussi parce que le contrat de mariage est limité à la sphère privée et que le contrat de travail salarié est ouvert sur la sphère publique. C'est la principale distinction qu'elle souligne. Et c'est pour d'ailleurs la raison pour laquelle elle s'oppose aux féministes marxistes qui veulent dire que le contrat de mariage est un contrat de travail non rémunéré.
Et ça, je pense, c'est peut-être un des apports aussi des féministes radicales, même si elles ont énormément de problèmes. Dire que c'est uniquement un contrat de travail, ça oublie notamment la dimension du devoir conjugal, de la domination sexuelle. Mm-hmm. Les femmes mariées ne sont pas censées que faire des tâches ménagères, mais aussi céder aux caprices et aux désirs sexuels de leur mari. Alors, avant de continuer dans la présentation du contrat sexuel de Pateman, nous allons faire une pause musicale.
En direct, l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran. Impossible à Marie de remonter un tir contré de Gambetta. J'ai tort peut-être, je l'adore. Des hommes y viennent, je peux les toucher. Je suis triste et émerveillée. Le silence, je garde le silence. J'habite là, je le peux. C'est la dernière maison de la terre. À l'intérieur, il y a des arbres, de l'herbe, des ruisseaux. Dehors, du carreau, des murs, du béton, sur toute la terre. Tu n'as pas froid? La terre va encore se refroidir. Réveillons, réveillons, c'est le réveillon. Réveillons, c'est le réveillon. Réveillons nos soleils. Réveillons nos soleils. Ne suis-je pas prisonnière? Joliet, tu es prisonnier aussi dans pas gagné. Tu es un maton, perds un peu. Perds un peu la mémoire. Et tu te souviendras de toi, de moi, du chaud, du froid, de maintenant. Oublie d'avoir raison et tu comprendras tout. Tu ne perdras que ta prison. Tu ne perdras que ta prison. Perds un peu ta raison. Perds un peu ta raison. Je vous déclare la paix. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix d'abord. Elle sera notre enfant. Comme quand on était petit. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Écoutez-nous. Croyez-nous, c'est le matin. Le matin. C'est le matin, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est le matin. Demandez le matin. Demandez maintenant. À la question, l'accusé est-il coupable des faits? Le jury a décidé.
Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni mari, ni patron, dans une émission de sortir du patriarcat, capitalisme. Nous sommes toujours avec Sophia pour parler de l'ouvrage de Carol Peitman, Le contrat sexuel, qui est donc paru aux éditions La Découverte en 2010 en français. Et dans une première partie de l'émission, on a procédé à une présentation générale du contrat sexuel, de ses thèses, de ses différents chapitres. Et avant de passer donc dans cette deuxième partie aux limites et aux critiques qui ont été faites au contrat sexuel et comment est-ce qu'on peut éventuellement dépasser ces limites, on voulait revenir sur quelque chose qu'on a moins abordé dans la première partie de l'émission. C'est la critique proprement anticapitaliste, qui s'articule d'ailleurs toujours à une critique du patriarcat, de Carol Peitman. Et je voudrais notamment commencer par une citation, page 94, où elle fait une critique assez implacable du salariat. Dans une entreprise capitaliste, lorsqu'un travailleur passe d'un service à un autre, ce n'est pas parce qu'il a librement négocié avec son employeur et conclu un nouveau contrat, c'est parce qu'on lui a ordonné de le faire. Une entreprise n'est pas une société contractualiste en miniature, constituée à travers une série continue de contrats successifs. Dans le contrat de travail, le travailleur accepte, en échange d'une certaine rémunération, d'obéir aux instructions d'un entrepreneur dans certaines limites. C'est la prérogative de l'employeur que de diriger le travail de son employé. Le contrat crée une relation de subordination. Et par là, Carol Peitman, et ça c'est quelque chose d'assez original dans la critique anticapitaliste, elle critique l'idée qu'on pourrait séparer la force de travail de l'individu lui-même. Et c'est justement, c'est lié au fait qu'elle insiste beaucoup sur la subordination, comme on l'a dit dans la première partie de l'émission. Et du coup, elle dit, c'est pas d'un côté l'individu, voilà, il vend sa force de travail, elle se balade, pendant 8 heures, elle fait son taf, et après elle revient. En réalité, l'individu complet est engagé dans une relation de subordination. Et là pour le coup, il y a une certaine analogie avec le mariage. Sauf que c'est pas simplement l'individu comme force de travail qui est engagé
dans le mariage, mais la totalité de la personne.
Mais c'est aussi que Carol Bateman souligne que le concept de force de travail semble induire que l'individu est complètement étranger à la création, enfin, au développement de sa force de travail. Mais alors, Carol Bateman souligne bien que finalement, c'est parce que l'individu a développé telle compétence ou a développé telle caractéristique par son propre travail personnel, si je puis dire, qu'il a une telle force de travail apte à être mise sur le marché des forces de travail. Et du coup, finalement, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, d'une part, comme tu l'as dit, le concept de force de travail, enfin, que la subordination de l'individu par l'entreprise capitaliste est comme tu l'as décrite, mais qu'en plus, sa force de travail ne peut pas être détachable du fait qu'il a participé à sa propre création.
Oui, et là, on voit une articulation très claire avec sa critique du patriarcat, puisque précisément la formation de cette force de travail et aussi la qualification, la reconnaissance professionnelle des qualités et de cette force de travail sont aussi modifiées, biaisées, influencées par le patriarcat, puisque les compétences professionnelles des femmes vont être systématiquement dévalorisées par la naturalisation. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les services à la personne, les tâches ménagères, etc. sont si mal payés, c'est parce qu'on ne reconnaît pas ça comme des compétences professionnelles, mais qu'on reconnaît ça comme des dons de la nature. Et finalement, là, le patriarcat et le capitalisme font très bon ménage, puisque le patriarcat a des ménagères qui font du travail ménager gratuit, et le capitalisme a une force de travail beaucoup moins chère.
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que Bateman souligne même que si des ménagères, enfin des femmes au foyer, auraient voulu être payées pour leur travail ménager, elles n'auraient pas pu parce que légalement, c'est interdit d'inscrire dans un contrat de travail la rémunération de l'épouse pour son travail domestique. Et du coup, là, l'État, le capitalisme et le patriarcat se tiennent tous les trois très bien.
Oui, et ça, c'est très intéressant parce que ça fait écho à une critique féministe qui répond un petit peu à une critique, disons, marxiste de la marchandisation des relations sociales, et qui est de dire que, enfin, dans le cas d'une société capitaliste et patriarcale, il vaut mieux au moins vendre ses services ménagers ou ses services sexuels, même si la Bateman n'est pas forcément d'accord avec ça, mais au moins dans notre position, il vaut mieux parfois vendre quelque chose pour au moins en tirer un profit que de tout faire gratuitement. Et on peut critiquer la marchandisation des relations sociales, mais si on prend la situation de la femme au foyer victorienne au XIXe siècle, elle ne marchandise aucun de tous les services qu'elle fournit à l'homme et à la société capitaliste et patriarcale, mais on ne voit pas en quoi est-ce que c'est très enviable. Il vaut mieux, à la limite, vendre ce qui sinon est gratuit.
Mais finalement, même si les femmes essayent de vendre ce qui aurait dû être gratuit, comme le souligne Bateman, le caractère patriarcal du capitalisme fait que, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, alors il va y avoir une dévalorisation de leurs compétences, du coup, des salaires plus bas que ce qui aurait été payé à un homme pour le même travail. Et finalement, tout ça est causé par la division sexuelle du travail qui fait que même des femmes pourraient pas être concurrentes directes d'hommes, mais finalement assignées à des tâches différentes. Et finalement, Bateman, ce qui est aussi intéressant dans son analyse critique du capitalisme en tant que le caractère patriarcal du capitalisme, elle souligne que la division sexuelle du travail, elle engendre une fraternité ouvrière, mais elle parle bien de fraternité. Et finalement, elle souligne que le mouvement ouvrier a en lui-même un caractère patriarcal très fort et il a défendu ses privilèges de manière très puissante et donc a refusé de s'allier aux côtés des travailleuses lors de la transformation Bateman parle de transformation en ménagère. Et finalement, le mouvement ouvrier a décidé de s'attacher à ses privilèges plutôt que de s'ouvrir à la main-d'œuvre féminine pour qu'elle aussi soit rémunérée. Et donc, Bateman souligne aussi, à la fois dans l'histoire et dans le mouvement ouvrier, l'invisibilisation des femmes travailleuses, alors même qu'elle souligne qu'en 1931, il y avait deux fois plus de domestiques femmes que de mineurs en Angleterre, alors que la figure symptomatique du révolutionnaire prolétaire, c'est le mineur, et clairement pas la femme domestique. En cela, Bateman souligne que le caractère patriarcal du mouvement ouvrier réaffirme aussi la domination sexuelle des ouvriers sur leurs épouses, dans le sens où eux-mêmes ont besoin de la réalisation de leur contrat sexuel domestique pour être valorisées socialement et pour que leur qualité de travailleur soit réaffirmée.
Oui, et par rapport à ça, ça fait écho aux travaux de Sylvia Walby dans un ouvrage qui s'appelle Patriarchy at Work, où elle montre comment est-ce que certaines lois sociales en Angleterre au XIXe siècle sont une sorte de compromis entre les capitalistes et les ouvriers, qui évidemment n'ont pas les mêmes intérêts, même par rapport au patriarcat, c'est-à-dire que les ouvriers auraient intérêt à ce que leurs femmes ne travaillent jamais en dehors de la maison et soient uniquement des bonnes à tout faire, gratuites, chez elles. Et les capitalistes auraient intérêt quand même à avoir de la main-d'œuvre pas chère et qu'elles travaillent quand même un minimum. Et finalement, le contrat, ça va être un peu la double journée, quoi. Ça va être que, ok, les femmes peuvent travailler, mais dans un certain nombre de limites, ségrégation horizontale, c'est-à-dire qu'elles auront certains secteurs, mais pas d'autres. Il y aura des secteurs qui seront réservés aux hommes, les secteurs les plus qualifiés, les mieux payés, hein, évidemment, et puis une ségrégation verticale, c'est-à-dire que les femmes ne pourront pas occuper des emplois, disons, hiérarchisés. Voilà, donc finalement, le capitalisme paye moins les femmes, mais bénéficie quand même d'une main-d'œuvre pas chère, et les hommes s'y retrouvent aussi parce que ça fait un salaire d'appoint, voilà, un petit salaire en plus du leur, mais ça permet pas aux femmes d'être économiquement indépendantes et elles restent à la maison.
Et même d'un point de vue plus symbolique, un exemple souligné par Sylvia Walby est l'interdiction du travail de nuit aux femmes, qui a été vantée par le mouvement ouvrier comme une victoire face aux capitalistes, une espèce de victoire du mouvement ouvrier qui serait parvenue à permettre aux femmes d'être avec leurs enfants la nuit, tandis que les ouvrières, à ce moment-là, se battaient justement pour avoir le droit de travailler la nuit parce qu'il s'agissait de travail mieux rémunéré que le travail de jour, tout simplement. Et finalement, d'un point de vue symbolique, je pense que c'est très fort pour les hommes d'interdire aux femmes l'accès à la sphère publique la nuit et justement de les reclure chez eux. Pour moi, c'est assez fort.
Oui, et justement, parce qu'on parlait de compromis, on peut parler même de convergence entre le mouvement ouvrier et les capitalistes sur la question des femmes à certains moments, notamment sur le fait que voilà, les femmes sont dévalorisées dans leurs compétences professionnelles et donc moins payées. Et là, on peut même dire qu'il y a une espèce de continuité entre le fait que les femmes sont mal payées et le fait qu'elles ne sont pas payées chez elles. Et finalement, c'est aussi parce qu'elles ne sont pas payées pour ce qu'elles font chez elles que lorsqu'elles font la même chose à l'extérieur, ça a si peu de valeur. Puisque, précisément, il y a plein de femmes qui le font gratuitement. Donc, quand on paye pour ces mêmes services, notamment les services à la personne, le ménage, etc., on trouve ça normal que ce soit mal payé, puisque normalement, ça devrait être les femmes qui le font gratuitement.
Mais en fait, Carol Pateman résume ce que tu viens de dire avec la phrase suivante, que les femmes sont considérées comme étant des femmes avant d'être des travailleuses. Et c'est tout à fait ça. Finalement, naturellement, c'est des femmes, par exception des travailleuses, mais de manière essentielle, elles ont des caractéristiques typiquement féminines, et du coup, demander un salaire pour ça, ça serait quand même fort de café, quoi.
Et par rapport à ça, elle raille un petit peu une citation du mouvement anarchiste qui dit « Aucun homme n'est assez bon pour être le maître d'un autre ». Et on peut se demander du coup si, selon ce même slogan anarchiste, un homme serait assez bon pour être le maître d'une femme. Et effectivement, ça c'est un point qu'on a abordé dans une émission avec Francis Dupuis-Déry, de la critique du sexisme dans l'anarchisme, dans la théorie et dans la pratique anarchiste, c'est que il y a malheureusement pas tellement, en dehors des anarcha-féministes, de critiques anarchistes du patriarcat. Et Pateman va même plus loin. Elle dit que le socialisme d'une bonne partie des théoriciens socialistes présuppose l'existence d'une femme au foyer, qui finalement va s'occuper d'un certain nombre de tâches ménagères. C'est-à-dire que finalement, le socialisme, par son apologie du travail, non seulement pas toujours très émancipateur vis-à-vis du capitalisme, mais aussi, par contre-coup, dévalorise ce qui n'est pas considéré comme un travail, considéré simplement comme des tâches ménagères. Et elle pointe bien, dans le 8e chapitre, du coup, qui s'appelle « La fin de l'histoire », Pateman, que finalement, Rousseau et Proudhon rejettent l'ordre étatique et le salariat, mais notamment grâce à la subordination des femmes. C'est-à-dire que Proudhon envisage son socialisme... de mutualiste, de coopérative et tout, basé sur une sphère publique du travail émancipée du capital, mais qui est complètement, qui repose fondamentalement sur l'exclusion des femmes, un petit peu comme dans la Grèce antique finalement, où la démocratie athénienne reposait sur l'exclusion des femmes et des esclaves aussi, il faut bien le dire. Et donc finalement, ce qu'on peut conclure avec Pateman, c'est qu'il faut une critique radicale du patriarcat moderne et du capitalisme, une critique qui doit être faite de manière conjointe, sans pour autant dissoudre l'un dans l'autre, sans pour autant arriver, comme le féminisme marxiste, à considérer que le patriarcat finalement n'est que quelque chose qui est fonctionnel au capitalisme. Il faut critiquer de front les deux, comme étant des systèmes qui sont à la fois spécifiques et des systèmes en même temps qui sont l'un dans l'autre, d'une certaine manière, qui sont codépendants, co-constitutifs. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle fait naître le patriarcat moderne et le capitalisme au même endroit et au même moment, au XVIIe siècle en Angleterre. Après, pour passer sur les limites de Pateman et les critiques, on peut reconnaître à Pateman une certaine autocritique dans le chapitre 8, c'est-à-dire qu'elle affirme bien que les contractants du contrat originel sont des hommes blancs. Et donc elle dit, finalement, j'ai raconté la moitié de l'histoire avec le contrat sexuel, la moitié qui manquait finalement, et bien elle dit finalement, c'est un peu moins. En fait, il y a un contrat blanc, un contrat sexuel et un contrat de classe. Le contrat de classe, comme l'a signalé Charles Mills, qui s'est beaucoup inspiré de Pateman pour écrire The Racial Contract, donc le contrat racial. Le contrat finalement de classe était déjà critiqué chez Rousseau, il est critiqué chez les marxistes. Mais c'est vrai que dans le livre de Pateman, s'il y a une bonne critique du contrat sexuel, il manque encore la critique du contrat raciste. Et là où on peut dire que Pateman a quand même su dépasser ses propres limites en partie à ce sujet-là, c'est que dans un ouvrage qu'elle a publié en 2007, donc son ouvrage s'appelait Contract and Domination, donc Contrat et Domination, qu'elle a publié donc avec Charles Mills, elle a écrit un chapitre qui est très intéressant, qui s'appelle le Settler Contract, où elle théorise un contrat racial qui tient en deux points. C'est que le contrat entre hommes blancs dans les sociétés aux États-Unis et en Australie, c'est les deux cas qu'elle prend souvent, d'ailleurs elle prend aussi celui de l'Angleterre, en général c'est les trois. En Australie et aux États-Unis, le settler contract, c'est-à-dire le contrat des colons blancs, c'est à la fois un contrat qui efface l'existence des sociétés amérindiennes, c'est-à-dire qui fait comme s'il y avait un état de nature avant. C'est là où la fiction philosophique est utilisée dans la réalité. La notion fondatrice du droit australien jusqu'à très récemment, jusqu'en 1992, de 1788 à 1992, c'est l'idée de terra nullius. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait personne avant. Il n'y avait personne, les aborigènes, ils n'existaient pas, c'est l'état de nature. Et donc, les premiers qui établissent une société, un ordre politique, c'est finalement les colons. Et donc, évidemment, tous ceux qui n'ont pas participé à ce contrat, en l'occurrence les Amérindiens aux États-Unis et les aborigènes, on leur dénie l'existence d'une société, on leur dénie évidemment toute participation à l'ordre politique. Et après, autre chose originale, elle dit que ce contrat de colons, il se manifeste aussi par les traités inégaux de spoliation des terres. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, mais le colonialisme, ce n'est pas uniquement que la violence et la guerre, c'est aussi des contrats. C'est des contrats inégaux. Et il y a des empires qui se sont constitués sur des contrats inégaux. Une bonne partie des terres des Amérindiens aux États-Unis ont été spoliés par le biais de contrats. Bon, évidemment, ils n'avaient pas le choix. Mais est-ce que, finalement, ce n'est pas le cas dans énormément de contrats ? On peut dire qu'elle a pris en compte le contrat racial dans ses travaux ultérieurs. Par contre, le grand problème, c'est qu'elle n'a pas vraiment pris en compte, même dans ses travaux ultérieurs, la spécificité de la place des femmes racisées, enfin du contrat que Mills appelle le racial sexual contract, c'est-à-dire le contrat racial sexuel. Elle n'a pas vraiment réussi à le théoriser. Tout ce qu'elle arrive à faire finalement dans Contract and Domination, c'est dire que les femmes noires et les femmes blanches ont un vécu différent aux États-Unis, mais elle ne le théorise pas vraiment, et elle critique le fait qu'il y a du racisme dans le féminisme blanc aux États-Unis au XIXe siècle.
Mais finalement, dans le contrat sexuel, la place des femmes noires, quand elle est examinée par Carol Pateman, c'est que quand il s'agit de femmes esclaves, donc une situation spécifique aux populations noires. Mais finalement, ensuite, la norme des femmes qui vont être examinées par Pateman, c'est clairement des femmes blanches. Et finalement, en fait, ce qui manque cruellement à Pateman, c'est une analyse intersectionnelle qui prendrait que finalement Charles Mills semble faire avec Racial and Sexual Contracts, c'est d'analyser ensemble le contrat sexuel et le contrat racial pour être à même de théoriser la situation des femmes noires non esclaves aux États-Unis. Mais finalement, je me demande si est-ce que l'analyse de Pateman qui repose sur la critique du contrat, elle n'est pas intrinsèquement non intersectionnelle, dans le sens où l'intersectionnalité permet de plutôt que de s'attacher au... Parce qu'un contrat est conclu entre deux personnes et gomme justement les inégalités ou les différences des co-contractants pour les mettre sur un pied d'égalité théorique. Mais finalement, l'intersectionnalité, dans la mesure où ça s'attache à analyser, prendre en compte à la fois le genre, la classe, la race, la sexualité, etc., pour arriver à théoriser la situation spécifique des individus, et dans la mesure où c'est intrinsèquement non contractualisable, parce qu'il s'agit de la situation presque essentielle de l'individu, est-ce que finalement une analyse par le biais du contrat, elle n'est pas intrinsèquement non intersectionnelle?
En tout cas, Pateman ne parvient pas à vraiment développer une analyse intersectionnelle en termes de contrat, potentiellement parce que ce n'est pas possible. Charles Smith y arrive, mais parce qu'il le dit lui-même dans cet ouvrage Contract and Domination, il dit parce qu'il a un usage plus métaphorique et plus philosophique en fait, du contrat social. Il ne cherche pas des contrats concrets comme le salariat ou le mariage pour illustrer. C'est-à-dire que pour lui, c'est plus une espèce de fiction qui permet de comprendre une situation sociale à un moment donné. Et donc, par exemple, lui, ce qu'il fait dans son chapitre 6 de Contract and Domination, avec sa théorie du contrat racial-sexuel, c'est que la société serait organisée sur un contrat social qui diviserait la société en quatre, avec les contractants qui sont les hommes blancs, qui sont tout en haut de la pyramide, deux positions, les femmes blanches et les hommes noirs, qui sont dans une position intermédiaire que lui, il appelle des sous-contractants, c'est-à-dire des gens qui ne contractent pas directement, mais qui indirectement ont contracté parce qu'ils partagent une caractéristique commune avec les contractants. Donc les hommes noirs, finalement, ils sont des sous-contractants parce que malgré tout, ils bénéficient quand même de la masculinité. Et les femmes blanches, finalement, sont des sous-contractantes parce que malgré tout, elles ont en commun avec les contractants d'être blancs. Et du coup, l'un comme l'autre groupe bénéficie de certains privilèges. D'une part, les privilèges liés à la masculinité pour les hommes noirs, et d'autre part, les privilèges liés à la blanchité, entre guillemets, pour les femmes blanches. Alors même si, Mills, en tout cas, prenant l'exemple des États-Unis, dit que la situation des femmes blanches aux États-Unis reste quand même plus favorable que celle des hommes noirs, je pense que la prééminence d'une forme de domination sur une autre, bon, c'est toujours quelque chose d'assez discuté, d'assez discutable. C'est vrai qu'aux États-Unis, au 19e siècle, on peut dire globalement que la situation des femmes blanches est clairement meilleure que celle des hommes noirs. Et après, par contre, évidemment, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des non-contractantes absolues qui sont les femmes noires et qui, elles, sont soumises à la fois aux hommes blancs, mais aussi, et ça, c'est quelque chose que les féministes, d'une part, et les antiracistes, d'autre part, oublient, mais c'est que les femmes noires sont aussi soumises, par le biais d'une espèce de contrat racial sexuel, à la fois aux hommes noirs, donc elles doivent aux hommes noirs le devoir conjugal, les tâches ménagères, etc., des choses d'ailleurs dont Pateman parle, et elles doivent aux femmes blanches de les aider contre une rémunération extrêmement faible à leurs tâches ménagères. Donc là, on a une description finalement de la société américaine au 19e siècle, une société qui est basée sur effectivement un patriarcat afro-américain qui est extrêmement faible parce qu'il est dans les geôles de l'esclavage, mais qui existe quand même malgré tout. Et d'autre part, les femmes noires qui sont subordonnées aux femmes blanches, pas simplement aux hommes blancs, parce que les femmes blanches, les emploie pour les aider, pour les aider entre guillemets dans leurs tâches ménagères.
En fait, ce que tu dis, ça me confirme dans l'idée que une analyse de la situation des femmes noires par le truchement de l'analyse du contrat, qu'il s'agisse du contrat social philosophique ou des contrats réels, elle est limitée, parce que tu disais que finalement, effectivement, les femmes noires, elles sont soumises à la fois aux femmes blanches et aux hommes noirs et aux hommes blancs, mais finalement, l'intersectionnalité, c'est pas une histoire de qui est soumis à qui. Pour moi, c'est une histoire de dans quelle mesure la situation des femmes noires, quand elles sont soumises aux hommes blancs comme le sont les femmes blanches, elle est spécifique du fait de leurs caractéristiques de femmes noires. Et du coup, finalement, si on parle qu'en termes de soumission ou de contractant, pour moi, on oublie une grande partie de l'intersectionnalité. Mais enfin, on en reparlera peut-être plus tard dans le cadre d'une autre émission. Mais enfin, en tout cas, j'ai l'impression que finalement, l'analyse par le truchement du contrat, elle ne peut être que limitée parce qu'elle omet, ouais, elle omet une grande partie de l'intersectionnalité.
Oui, oui, non, mais ça, c'est clair. Je pense que la tentative de Charles Mills, elle est louable. Elle est assez intéressante sur certains aspects, mais ça reste hyper général, hyper schématique, et pas si pertinent que ça. Après, on peut dire qu'il a mieux réussi quand même que Bateman, et notamment l'idée quand même d'avoir voulu penser à un contrat racial sexuel, c'est quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'évidemment, c'est limité en termes d'intersectionnalité. Et finalement, finalement Bateman en 2007 et puis Mills encore plus arrivent à sortir de certaines ornières du livre, donc le contrat sexuel. Notamment, il y a quand même une critique des féministes blanches américaines qui n'étaient pas là dans le contrat sexuel, pas de manière très centrale. Alors que dans l'article de Bateman, c'est quand même assez important. Il y a au moins dans l'article de Mills, l'idée qu'il y a quand même une position très différente entre les femmes blanches et les femmes noires. Bon, malgré tout, effectivement, c'est probablement des limites de Bateman qui n'est pas possible de dépasser dans le cadre d'une critique du contrat patriarcal, quoi.
Mais finalement, c'est peut-être parce que aussi, tout simplement, l'analyse de Bateman est centrée autour de la variable sexe, parce que c'est une féministe radicale, quoi. Et du coup, finalement, effectivement, si sa grille de lecture repose uniquement sur le sexe de l'individu, finalement, l'ensemble des autres caractéristiques, qu'il s'agisse de la classe ou de la race, ça passe après, quoi.
Oui, oui, et ça, c'est peut-être... Enfin, c'est effectivement la grosse faiblesse des analyses des féministes radicales. C'est une forme de réductionnisme au sexe, un petit peu comme... certains marxistes, finalement, ont tombé sur une forme de réductionnisme économiciste. C'est-à-dire qu'on explique tout par l'économie. Là, chez les féministes radicales, il y a une certaine tendance à tout expliquer par le sexe, d'où aussi une monofocalisation sur les questions de travail du sexe, d'exploitation sexuelle, etc. Et une attention beaucoup moins importante, par exemple, sur le travail domestique, le care forcé, dont parle Nakano Glenn, qui est celle qui a le plus étudié justement les relations de subordination entre les servantes noires et les femmes de classe moyenne blanche aux États-Unis au XIXe siècle. Et finalement, ce réductionnisme, il a aussi comme conséquence néfaste, et ça c'est très clair chez Bateman, et ça pour le coup elle ne l'a pas dépassé, c'est sa transphobie. Et son refus, pas complet, mais assez large quand même, du concept de genre. C'est-à-dire que finalement, elle définit les femmes comme une classe de sexe, ce qui revient quand même à une certaine forme d'essentialisation et de naturalisation. Alors effectivement, elle a beau jeu de dire « Oui, mais en fait, c'est parce que effectivement, dans le travail sexuel, il y a une grande partie des hommes qui recherchent des attributs sexuels biologiquement, entre guillemets, féminins, entre guillemets. » Mais, je veux dire... on ne peut pas expliquer tout le patriarcat uniquement par, je suis peut-être un peu cru, mais par la forme de l'appareil génital. Enfin, c'est un peu ça le problème, je pense encore une fois, du réductionnisme. Et transphobie parce que, Bateman a quand même parle quand même de les hommes insatisfaits de leur orientation sexuelle peuvent devenir transsexuels et se transformer en simulacres de femmes. Donc là, on a... C'est d'ailleurs intéressant ce concept de simulacre de femmes, parce que finalement, le simulacre, ça s'oppose au naturel. Et donc, finalement, Peitman, qui est quand même une critique du patriarcat, assez radicale, finalement dit non, mais il y a quand même les vraies femmes et les vrais hommes. Bon, et c'est, je pense, d'ailleurs, tout l'impasse du féminisme radical.
Et en plus, cette phrase, c'est un combo, parce que c'est également une homophobie énorme en disant que finalement, quand tu es insatisfait de ton orientation sexuelle hétérosexuelle de facto, en fait, tu peux même pas devenir homosexuel, il faut que tu changes de genre. Enfin, là, ça révèle toutes les limites relativement graves de l'analyse de Peitman, qui est clairement homophobe et transphobe.
Elle a aussi des propos méprisants pour les personnes intersexes, qui représentent quand même 1,5% de la population mondiale. Donc des individus qui ont des caractéristiques sexuelles qui sont ni exclusivement masculines ni exclusivement féminines. Et elle dit « Un corps humain, sauf en cas d'infortune de naissance, n'est pas en même temps mâle et femelle. » Donc elle pathologise en fait une partie quand même assez conséquente de la population mondiale. Alors évidemment, tout ça est fait, comme très souvent chez les féministes radicales, et malheureusement c'est une partie des féministes matérialistes, au nom de la critique des féministes postmodernes qui voudraient faire disparaître le sexe et faire du patriarcat uniquement des normes discursives. C'est oublier qu'on peut très bien être matérialiste, c'est-à-dire critiquer que le patriarcat c'est pas simplement des discours mais c'est aussi des rapports matériels de domination, mais on peut aussi dire que ces rapports de domination matérielle n'engagent pas que des hommes cis, c'est-à-dire des hommes non trans, et des femmes cis, c'est-à-dire des femmes non trans, mais que ça peut inclure aussi des hommes trans, des personnes non binaires, même si évidemment là, ça oblige à repenser en fait une bonne partie de la théorie féministe, ce qui est en cours, notamment dans les tentatives d'élaboration d'un matérialisme queer, dont on parlera dans une autre émission, parce que là on n'en a pas trop le temps. Et on peut aussi indiquer que Peitman tient des propos critiquables sur le travail du sexe et de reproduction, la GPA, la pornographie, les pratiques BDSM, sadomasochiste. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission, parce que c'est évidemment des questions qui, en tant que telles et prises séparément, nécessitent une émission complète. Donc, dans les prochaines émissions, quand on critiquera la position des féministes radicales sur ces questions-là, eh bien, il faudra inclure Carol Peitman. Voilà, eh bien, on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette première émission de Sortir du patriarcat capitalisme autour du contrat sexuel de Carol Peitman avec Sophia. Et voilà, on espère que vous aurez trouvé intéressante la critique radicale du contrat, du patriarcat et du capitalisme qu'on retrouve chez Carol Peitman, même si vous serez vigilant et vigilante si vous lisez le livre sur toutes les limites qu'il contient et qui ont été que très partiellement dépassées dans ses travaux les plus récents. Donc merci aux auditeurs et aux éditrices et merci à Sophia.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
Patria, patriarca, patriarca.
L'idéal de la femme blanche. Séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Patriarca, patriarca.
Les luttes sont indissociables, c'est-à-dire que moi je peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire, tous les enjeux sont interdéterminés.
Patriarca, patrie, patriarca, patrie.